son char.
Amateur,
propagande. Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique en direct de Radio Canu, tous les vendredis de 13h à 14h. Alors je précise qu'il est 13h06, hein, je me suis un peu trompée. Alors aujourd'hui nous allons vous proposer la lecture d'une pièce de Daniel Keane qui s'appelle Dreamers. Dans les studios avec moi il y a Camille Davin.
Bonjour.
Gaspard Blanchard.
Bonjour.
Pauline Thirault.
Bonjour.
Et moi-même, Amandine Vincent. Et puis nous avons le plaisir de retrouver en fin d'émission Miguel Peltora qui nous fera donc sa fameuse chronique. Je cède tout de suite la parole à Camille qui a préparé cette émission. Camille, c'est à toi.
Bien, bonjour à tous. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous lire du théâtre dans ce contexte un peu morose pour la culture. Et le texte d'aujourd'hui s'appelle Dreamers, rêveurs. Donc c'était l'idée de pouvoir rêver un petit peu ensemble. C'est une histoire simple, une femme qui rencontre un étranger et dans l'amour de l'autre se découvre et renaît à elle-même. Ici dans Dreamers, c'est Anne qui rencontre Majid. Anne, c'est une vieille dame qui a traversé sa vie sagement en étant celle qu'on lui demandait d'être. Et Majid, il vient d'ailleurs et il tente aussi de se réinventer en créant sa vie ici. Il subit à la fois un accueil hostile et ils se sont déracinés. Mais ensemble, ils se réapproprient peu à peu eux-mêmes à travers leur histoire d'amour. Donc ce texte, il présente à la fois cet amour et la société qui est représentée de manière un peu agressive par une sorte de cœur de vrais gens, entre guillemets, que c'est Daniel Keane qui dit ça lui-même. Donc il y a les voisins, le contrôleur, le serveur, un contremaître. Et cette société n'aime pas les rêveurs, ceux qui sortent des schémas et qui ne se conforment pas à la pensée normative. Donc la pièce expose ces mécanismes sociaux et puis le fonctionnement des pulsions d'un inconscient collectif. Donc elle mélange des degrés de réalité et on passe d'une chose un petit peu grotesque et agressive avec le cœur des gens et puis à quelque chose de beaucoup plus onirique dans la rencontre entre ces deux amoureux. Donc avant de commencer la lecture, je voulais juste vous dire deux, trois mots sur Daniel Keane. Donc c'est un auteur australien qui est né à Melbourne en 1955. Donc c'est quelqu'un qui a écrit à la fois pour le théâtre, le cinéma et la radio. Et après avoir été pendant un court temps à la fois metteur en scène et acteur. Donc pendant 5 ans, jusqu'en 2002, il travaille avec un metteur en scène australien, Harriet Taylor, et il monte plus d'une trentaine de ses pièces. Donc c'est vraiment un auteur prolifique. Et ensuite, ses pièces ont été jouées vraiment un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, au Japon, au Portugal. Il y a eu beaucoup de commandes d'auteurs, enfin de metteurs en scène français. Donc et son œuvre est ici publiée essentiellement aux éditions théâtrales. Donc là, ce que nous allons vous lire, c'est des extraits de la pièce, parce que c'est une pièce qui fait 80 pages. Donc on a essayé de choisir des passages parlants. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc le texte, Dreamers. Une rencontre. Un peu après-midi. Un arrêt de bus, un banc. Anne, assise seule. Au bout de quelques instants, un contrôleur arrive. Il s'assied à la droite d'Anne.
Bonjour.
Bonjour.
Il ne devrait pas être trop long. Il y a eu du retard ici.
Je dois aller chez ma fille, elle m'attend.
Ouais, il ne devrait pas être trop long.
Le bus est fiable, hein, d'habitude.
Ouais, les retards... On n'y peut rien, des fois.
Mais j'espère que ce ne sera pas trop long.
Ça ne devrait pas. J'ai fini ma journée et j'aimerais rentrer chez moi, comme tout le monde.
Vous devez en avoir marre de rouler en bus.
Avant, je conduisais. On passe sur cette ligne. Mais j'ai été chauffeur pendant plus de 20 ans.
La circulation, c'est de pire en pire.
Oh, la circulation ne m'a jamais inquiété plus que ça. Mais il a fallu que je renonce à conduire. J'ai un problème à l'épaule. Je suis tombée chez moi dans l'escalier et je me suis esquinté l'épaule. Oh, je peux pas tourner le volant comme il faudrait. Je ne conduis même plus la voiture et... Ça, là... Regardez, je ne peux pas le faire. Bah, mon épaule est toute bloquée. Bah, je peux pas la bouger comme il faudrait.
Il baisse les bras.
Je ne pourrais pas conduire un bus, vous voyez. Aucune souplesse. Du coup, ils m'ont donné ce boulot. Bon, j'ai rien contre, hein, ça paye les factures.
Ça vous manque ?
De conduire ? Oui, j'adorais conduire. Je connaissais toutes les rues, évidemment. Tous les arrêts, tous les usagers réguliers. C'est tout ça qui me manque. J'aimais bien mon boulot. Oh, y en a pas beaucoup qui peuvent en dire autant. Hein.
Non, ça, ouais, sans doute que non.
Plus personne n'aime son boulot. Les boulots ont changé, vous voyez. Ils ont changé. On n'en tire plus de satisfaction. Tout est une affaire d'argent.
Les boulots, ça a toujours été une affaire d'argent.
Oh, pas toujours, hein. Pas que d'argent. Enfin, il y a d'autres choses en jeu dans un boulot, d'autres aspects. On a oublié tout ça aujourd'hui.
Vraiment ?
Oui, vraiment. En attendant, j'ai un boulot. Bon, ça paye les factures. Que m'en dire de plus ? Rien, j'imagine. Mais ça n'a pas de sens, enfin pas pour moi.
Majid arrive à l'arrêt de bus. Ses vêtements sont couverts de poussière. Il s'assied à la gauche d'Anne. Majid glisse la main dans la poche de sa veste pour en sortir un paquet de cigarettes. Son épaule frôle celle d'Anne au passage.
Pardon.
C'est rien.
Je vous ai mis de la poussière partout.
C'est pas grave.
Elle se brosse l'épaule avec la main.
Vous voulez une cigarette ?
Alors, ça fait des années que je n'ai pas fumé.
Vous avez bien raison. Mais j'aime fumer.
On peut pas fumer dans le bus. Hein.
Ouais, ça je sais.
Bah, il sera là dans une minute à l'autre. Hein.
Mais je peux fumer à l'arrêt de bus.
Ah bah, personne n'a dit le contraire.
J'ai besoin d'en fumer une. Aujourd'hui, j'ai perdu un boulot que j'avais même pas.
Bah, si on a un boulot, il faut s'y accrocher.
J'ai mal aux mains. J'ai le dos cassé, mes vêtements sont sales, mais j'ai pas de boulot. J'ai l'air d'un homme qui travaille, non ?
Quel genre de travail ?
Un travail de mule. Porter des briques, des grosses. Mais pas de boulot.
Bah, les boulots, ça se trouve pas comme ça de nos jours. Hein.
Ça, je sais. Mais le labeur d'un homme, ça vaut bien quelque chose, non ?
Là, ça dépend de l'homme.
Non, je veux dire... Tout homme. Tout homme, peu importe qui.
Peut-être. Ça dépend.
De quoi ?
Moi, je travaille. Enfin, je devrais être en train de travailler là. Mais ma fille a appelé. Elle a besoin de moi pour garder le petit. J'ai rien contre. Sauf que je devrais être en train de travailler. J'ai un quota à remplir. Et si je ne le remplis pas, je perds de l'argent. Elle sait ça, mais elle ne comprend pas. Elle ne travaille pas. Son mari travaille. Il gagne assez d'argent pour deux. Je ne sais pas ce qu'il fait. Enfin, ou plutôt, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il ne fabrique rien, il ne vend rien. Il travaille dans un bureau quelque part, il porte de jolis costumes, il est toujours fatigué. Mais je ne sais pas ce qu'il fait. J'ai demandé, mais plus il m'explique, plus ça m'embrouille. Alors, bien sûr que le labeur de chaque homme vaut quelque chose, mais qui décide de sa valeur ? Je travaille du matin au soir, mais je suis aussi pauvre que quand j'ai commencé à travailler et je serai aussi pauvre que je le suis aujourd'hui le jour où je ne pourrai plus travailler.
Ouais, voilà notre bus.
Ils se lèvent tous les trois à l'approche du bus. Majid jette sa cigarette et l'écrase sous son talon.
Il y a des choses que je ne comprendrai jamais.
Moi non plus, madame. Moi non plus.
Et c'est peut-être aussi bien.
Non, ça je pense pas.
7 minutes de retard. Bon, c'est pas si mal. Hein.
Une lettre. Nuit. Majid dans sa chambre. Il est assis à sa table en maillot de corps. Ses pieds sont nus. Il vient d'écrire une lettre. Il la lit.
Mon cher père, je suis désolé d'avoir laissé passer tant de semaines depuis la dernière fois que je t'ai écrit. J'ai reçu hier ta lettre pleine de colère. Tu m'as joliment remis à ma place. Mais j'ai souri aussi en me souvenant combien ta colère me faisait trembler quand j'étais petit garçon. Je suis plus un petit garçon, et ta colère est plus aussi farouche qu'autrefois, comme la dernière brise d'un orage qui se serait dissipée. J'ai aussi versé une larme sur toi, papa, car je sais que la solitude te rend malheureux. J'espère que tes vieux camarades passent toujours te voir. Et je sais que tante Leïla passera le mois prochain. J'ai pas encore trouvé de travail. Je vis très simplement, comme un moine.
Il repose la lettre. Il se lève et fait le tour de sa chambre. Il s'assied au bord de son lit, la tête entre les mains.
Que puis-je te dire, papa ? Que puis-je te dire de bon ?
Après une pause, il retourne à la table, s'assied, prend son stylo et reprend la rédaction de sa lettre. Il parle tout en écrivant.
J'ai quelques amis. Nous avons beaucoup en commun. Nous sommes tous des étrangers ici. Nos difficultés et nos espoirs sont les mêmes. Peut-être que certains d'entre eux ont le même espoir que moi. On essaie de s'entraider par tous les moyens qu'on peut. Je tiens ma chambre propre. Je me nourris du mieux que je peux. Je me lave tous les matins et tous les soirs. Je prie. Je prie quand je pense devoir prier. Je prie pour toi.
Le café. Matin, la terrasse d'un petit café. Anne est assise seule à une table, sirotant un coca. Après une pause, Majid apparaît, un peu à l'écart. Sa veste est toujours un peu poussiéreuse. Il se tient là, observant Anne. Anne n'a pas conscience de la présence de Majid. Au bout de quelques instants, le serveur apparaît et s'approche de Majid.
Vous désirez ?
Ça ira.
Pardon ?
Je ne veux rien.
Dans ce cas, je m'excuse, mais qu'est-ce que vous faites là ?
Je fais rien.
Vous comptez vous asseoir à une table ?
Non,
ou...
je veux rien.
Bah, dans ce cas, je vous demande de partir.
Je peux pas rester dans la rue si je veux.
Mais vous n'êtes pas dans la rue. Vous êtes dans un café.
Vous auriez une cigarette ?
Pardon ?
Je me demandais si vous aviez une cigarette. Je suis complètement à sec.
Vous voulez que j'appelle le patron ?
Il me donnera une cigarette ?
Pouvez-vous partir, s'il vous plaît ? J'ai des clients à servir.
Je vous retiens pas.
Pouvez-vous partir, s'il vous plaît ?
Anne se lève et fait signe à Majid.
Là ! Je suis là !
Excusez-moi.
Il s'avance vers Anne. Elle se rassied et lui fait signe d'en faire autant. Majid s'assied en face d'elle. Le serveur vient à la table.
Qu'est-ce que ce sera ?
Rien.
Un café ? Vous prendrez un café ?
Majid tâte ses poches.
J'ai bien peur.
Un café. Et pour moi, un autre coca, s'il vous plaît.
Le serveur se tourne brusquement et repart.
J'ai bien peur de ne pas avoir de quoi...
Ne vous en faites pas pour ça.
C'est gentil à vous.
Je me suis levée aux aurores ce matin, mais j'ai tant à faire. Mais j'ai décidé que j'avais besoin de faire une pause. Puis j'ai décidé qu'aujourd'hui, je ferai ce que je veux, comme ça, pour changer. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup.
Je passais par là et je vous ai vu. Je me suis souvenu de vous depuis l'arrêt de bus. J'avais bien aimé ce que vous avez dit, comme quoi le labeur de chaque homme vaut quelque chose.
Bien, c'est vrai.
Sauf que le labeur de certains hommes vaut plus que celui de certains autres.
Certains hommes sont mieux payés que d'autres. Ce n'est pas pareil.
Comment ça, pas pareil ?
Ben ce qu'un homme est payé ne mesure pas toujours la juste valeur de son travail. Il va falloir que vous donniez cette veste à nettoyer.
J'ai essayé de la nettoyer avec un linge humide, mais je crois que ça n'a rien arrangé. C'est la seule veste que j'ai.
Je ne voudrais pas que ça vous gêne, mais je crois que j'en ai une qui vous irait. Elle était à mon mari. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardée, en fait. Ça fait des années qu'il est parti.
Parti où ?
Je veux dire qu'il est mort depuis des années.
Je suis désolé, je croyais que vous vouliez dire qu'il était parti quelque part.
Disons qu'il est parti au cimetière.
Vous disiez que vous aviez une fille.
Elle vit à l'autre bout de la ville.
Elle passe souvent vous voir ?
Quand elle a besoin de quelque chose, elle n'a pas souvent besoin de grand-chose.
Mon père est tout seul maintenant. J'ai une lettre à lui poster. J'étais en route pour le bureau de poste quand je me suis aperçu que j'avais oublié mon portefeuille. J'ai décidé de continuer à marcher, comme ça. J'aime bien marcher dans cette ville.
Combien il coûte le timbre que vous devez mettre ? Il y a un bureau de poste à deux pas d'ici, c'est sur mon chemin.
Non, vraiment, j'achèterai un timbre demain.
Vous avez dit que votre père était tout seul.
Oui.
Alors votre lettre doit partir aujourd'hui. Plus tôt elle arrivera, mieux ce sera. Il suffit d'un jour pour changer quelque chose.
Changer quoi ?
Changer tout au monde.
Je vous rembourserai le timbre.
J'y compte bien.
Mais pas le café.
Prénom. Après-midi. L'appartement d'Anne. Majid se tient au centre de la pièce, portant la veste qu'Anne vient de lui donner. Anne se tient là, à le regarder.
C'est pile votre taille.
Vous trouvez ?
Et la couleur vous va bien ?
Vraiment ?
Ben voyez vous-même. Il y a un miroir dans la salle de bain, par là.
Oui, vous avez raison, elle est bien. Merci.
Retirez-la. Venez par ici. Tenez-vous bien droit. Voilà, c'est plus commode comme ça.
Elle se met à brosser vigoureusement la veste.
Ah, et bientôt, vous aurez deux vestes, toutes les deux comme neuves.
Je ne me reconnaîtrai pas.
Vous vous reconnaîtrez toujours. Ce sont les autres qui ne vous reconnaîtront plus.
Vous avez l'air très sûre de vous.
Ah, je ne suis sûre de rien. C'est seulement l'impression que je donne. Je me suis toujours efforcée d'être optimiste. Je suis ainsi faite, c'est tout. Voilà, le désespoir, ça ne m'intéresse pas, même quand j'ai toutes les raisons de désespérer.
Ça demande du courage.
Ah non, je suis juste obstinée. Obstinée, pardon. Je l'ai toujours été.
Je ne connais même pas votre prénom.
Anne. Je m'appelle Anne.
Et moi, Majid.
Anne a fini de brosser la veste de Majid.
J'aime bien ce prénom. Majid. C'est agréable à dire. Tournez-vous pour voir.
C'est bon ?
Comme neuve.
Je l'ai acheté d'occasion.
Ah, tout ce que je possède, moi aussi, c'est de l'occasion. Hein. Enfin, mais pour moi, quoi. Enfin, quand je l'achète, c'est tout neuf.
Elle brosse une ultime tâche.
Et voilà.
Merci, Anne.
Vous buvez du thé ?
Ouais.
Je vous offre une tasse ?
Volontiers.
Voilà. Ensuite, il faudra que vous partiez et que je me remette au travail.
Et que je me remette à chercher du travail.
Quel genre de travail ?
Ça m'est égal, quel genre. Du travail qui mette de l'argent dans mes poches.
Ah, et combien d'argent ?
J'ai pas besoin de beaucoup.
Mais qu'est-ce que le besoin vient faire là-dedans ? Combien vous aimeriez ?
Assez pour avoir un vrai appartement, manger correctement, m'acheter des habits neufs peut-être, et des timbres.
Et payer vos dettes.
Je peux vous rembourser demain. On peut se retrouver dans ce café.
Non, je n'aurai pas le temps de flâner demain.
Je l'apporte ici alors. Je pourrais le glisser sous votre porte.
Non, mais ne vous donnez pas cette peine. Vous n'aurez qu'à me rembourser la semaine prochaine.
Plus tôt je vous rembourserai, mieux ce sera. Ça pourrait tout changer.
Changer quoi ?
Changer tout au monde.
Ah, je crois que j'entends siffler la bouilloire. Vous prenez du sucre ?
Oui, deux sucres. J'aime bien mon thé sucré.
Un sourire aux lèvres, Majid tend les bras et examine sa veste nettoyée de frais. Ordure. Nuit. Devant l'immeuble de Majid, une rangée de poubelles. Majid porte ses ordures à l'une des poubelles, dans un sac en plastique. Il est abordé par l'un de ses voisins, Claude.
Ça fait pas beaucoup.
Pardon ?
Bah, vous n'avez pas beaucoup d'ordures ?
Faut croire que non.
J'en ai à ne plus savoir qu'en faire.
Eh bien, j'en ai pas beaucoup.
Et regardez ces ordures, ça en dit long sur quelqu'un.
Vraiment ?
Sûr. Les merdes que les gens balancent, les trucs cassés, les restes, les bouteilles vides. Ah, ça raconte le genre de repas qu'ils font, les journaux qu'ils lisent, combien d'alcool ils s'enfilent, toutes sortes de choses, quoi. Vous, par exemple, avec votre petit sac en plastique, bah, vous deviez vivre comme un putain de moine, hein.
J'ai pas de quoi m'acheter grand-chose. Je gaspille rien.
Majid soulève le couvercle d'une poubelle et y jette un sac en plastique.
Bah, j'ai de quoi m'acheter à peu près tout ce que je veux. Dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr. On ne roule pas sur l'or par ici. Certains sont plus à l'aise que d'autres, bien sûr. Beaucoup plus à l'aise. Hein.
Ah, faut croire que oui, c'est dur pour certains.
Et je gaspille des tas de trucs, hein, des tas. Oh, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Pourquoi je m'inquiéterais ? Peut-être que vous devriez fouiller mes ordures pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui vous tente.
Pardon ?
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Hein.
J'ai aucune envie de fouiller vos ordures.
Sûr, c'est ce que vous dites.
C'est ce que je veux dire.
Et vous ne les avez jamais fouillés, peut-être ?
Non, je les ai jamais fouillés.
Ouais, c'est ce que vous dites.
Vous êtes en train de dire que je l'ai fait ?
Bon, il n'y a pas de honte à ça, hein.
Sauf que je ne l'ai jamais fait.
Bah, sauf que moi, je sais que vous l'avez fait.
Comment vous le savez ?
Ah, ma femme m'a raconté. Elle vous a vu la semaine dernière. Elle vous a vu faire les poubelles. Il était tard, elle n'arrivait pas à dormir. Elle s'est levée boire un coup. Elle a regardé par la fenêtre et vous étiez là à faire les poubelles.
Elle s'est trompée.
Elle ne se trompe jamais. Elle est très observatrice.
Elle s'est trompée.
Vous êtes à peu près la seule personne de couleur qui habite cet immeuble, d'accord ? Ah oui, il y a bien cette femme au troisième avec ses deux gosses, et puis l'autre là, le vieux qui boite. Mais c'était ni l'un ni l'autre.
C'était pas moi.
Qui ça pouvait être d'autre ? Ah, c'était quelqu'un de couleur. Hein.
Quelle couleur? Tout le monde a une couleur.
Votre couleur.
Elle s'est trompée.
Remarquez, dans le fond, qu'est-ce que ça fout? Seulement, ne mettez pas le bordel partout, d'accord?
J'ai pas fouillé votre foutue poubelle, d'accord? Peut-être que votre femme, elle a un problème aux yeux. Peut-être qu'elle confond les couleurs.
Non. Elle est calée, question couleur. Très calée, hein. C'est comme une spécialiste. Elle est capable de faire la différence entre une couleur et une autre, quand quelqu'un d'autre les trouverait exactement pareilles. Personne ne peut la tromper, vous entendez? Personne.
Qui essaie de tromper quelqu'un, là?
Qu'est-ce que j'en sais?
Vous pouvez dire à votre femme, là, de ma part, tout ce que je pense.
Non. Je dirai rien du tout de votre part. Hein. Elle ne parle pas aux gens comme vous. Elle ne veut même pas entendre parler de vous, ni de ce que vous pensez. Hein. Ça la met mal. Enfin, je ne veux pas qu'elle se sente mal. Hein. Moi, là-dessus, je suis cool. Hein. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je peux parler avec n'importe qui. Hein.
Ah oui, même à moi?
Sûr, ça ne m'inquiète pas plus que ça.
Dites à votre femme qu'elle a tort. Dites-lui que pour moi, c'est qu'une menteuse.
Oui, sûrement pas. Hein. Et je ne veux pas vous voir lui parler, ni l'approcher, hein, putain. Même de loin, hein. Compris?
Je sais même pas la tête qu'elle a.
Alors où est le problème?
Majin se tourne et s'en va. Il soulève le couvercle de la poubelle et regarde au-dedans.
Mais elle sait très bien la tête que vous avez. Comment peut-on avoir si peu d'ordures?
Musique. L'appartement d'Anne. Anne est assise devant sa machine à coudre, travaillant, une pile de chemises et de colle posée à côté d'elle. Sur la table, un petit transistor diffuse une chanson, un succès du moment. On frappe à la porte. À cause de bruit que font la machine et la radio, Anne n'entend pas qu'on frappe. Une pause. Puis on frappe de nouveau. On cesse de frapper, la porte s'ouvre. Majid se tient sur le seuil. Anne lève les yeux, prise au dépourvu.
Go !
Je suis désolée, la porte était ouverte.
Ah non, c'est rien. Entrez donc. J'étais pourtant persuadée d'avoir fermé la porte. Je ferme toujours la porte à clé.
C'était ouvert.
Je ferme toujours à clé, vous voyez.
Vous avez dû oublier ?
Ben oui, apparemment.
Je vous ai apporté l'argent pour le timbre.
Ah mais vous n'étiez pas obligée.
J'ai le montant exact.
Merci, Majid. Je vous sers un thé?
Je voudrais pas vous déranger.
Ben, moi, je boirais volontiers un thé et ça me ferait plaisir de boire avec vous.
Dans ce cas, d'accord?
Bien.
Ça vous ennuie si j'allume la radio? J'aime bien la chanson qui passait.
Oui, mais bien sûr, allez-y. Moi aussi, je l'aime bien.
J'ai pas la radio, mais j'ai entendu cette chanson hier. J'attendais pour traverser la rue, et une voiture s'est arrêtée tout près. La vitre était baissée et la radio passait cette chanson.
Je mets toujours la radio quand je travaille. Ça me tient compagnie. Mais la machine fait tellement de bruit que j'entends pas grand-chose, en fait. Mais s'il y a une émission intéressante, je m'accorde toujours une petite pause. J'aime me dire que je reste malgré tout en contact avec le monde. Je me sens parfois très isolée. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça.
Il n'y a pas de mal. Moi aussi, je me sens isolé parfois.
Mais vous, ça se comprend, non?
Ah oui?
Excusez-moi, mais enfin, sans vouloir être grossière, vous êtes loin de chez vous, non?
Chez moi, c'est ici, maintenant. Du moins, j'espère.
Oui, bien sûr que c'est ici. On peut bâtir son chez-soi où on veut.
Des fois, j'en suis pas si sûr. Vous avez toujours vécu ici?
Pas dans cet immeuble, mais dans cette ville, oui. C'est ici que je suis née. Je n'ai jamais voyagé. Mais je compte le faire, hein, avant que mon heure ait sonné.
Vous irez où?
En Italie.
Vous avez l'air très décidé.
Je le suis. J'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Je prends des cours d'italien. Un soir par semaine, au centre d'animation du quartier. C'est une langue ravissante. Pour moi, c'est comme de la musique.
C'est... Ouais.
Je vais m'occuper du thé. Mais je vous en prie, hein, asseyez-vous.
Vous pouvez me dire quelque chose en italien?
Non parlo molto bene.
Ça veut dire quoi?
Je ne parle pas très bien.
Ça veut dire ça?
Ça veut dire ça.
Mais ça sonnait très bien. Dites autre chose.
Ben, Je ne parle jamais italien en dehors des cours. Enfin, des fois, je m'entraîne à la maison. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais parlé italien à personne.
C'est l'occasion ou jamais.
Non sono mai stata in Italia.
Quelque chose à propos de l'Italie?
Eh oui, je ne suis jamais allée en Italie. Roma è più bella di Firenze. Rome est plus belle que Florence.
C'est vrai?
Eh bien, je sais pas. Non sono mai stata in Italia.
Magnifique. Vous êtes une élève très douée.
Lei è molto gentile.
Majid attend la traduction.
Lei è molto gentile. Vous êtes très gentil.
Voici Anne.
Opinion. Soir. Un arrêt de bus, un banc. Le contrôleur, le contremaître, le serveur.
Une petite maladie qui m'emporte en vitesse. Enfin, c'est ce que je peux espérer de mieux. Hein.
Vous êtes déprimée, c'est tout?
Comme si je ne savais pas. Je suis déprimée depuis que j'ai 7 ans.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 7 ans?
Bah comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé.
Il s'est forcément passé quelque chose.
Bah pourquoi?
Bah pour que vous soyez aussi déprimée.
Il ne s'est rien passé. Pourquoi il serait forcément passé quelque chose? Je me suis réveillée un matin, je m'en souviens comme d'hier. Je me suis réveillée et c'était comme si j'avais un poids là, dans la poitrine. Un poids énorme. Il ne m'a pas quittée depuis.
C'est pas grave si vous n'avez pas envie d'en parler.
Oh, il n'y a rien à dire de plus. Hein.
Je ne déprime jamais. C'est contraire à mes principes.
Bon, c'est pas une question de principe. Ça vous arrive comme ça m'est arrivé. C'est pas une chose qu'on choisit.
C'est comme se faire renverser par un bus.
Pardon ?
Personne ne choisirait de se faire renverser par un bus. Ça veut pas dire que les gens ne sont pas renversés par des bus.
Ça arrive souvent ?
Pas en train de dire que ça arrive souvent.
Bah non, parce que c'est pas souvent. Hein.
Mais ça arrive.
Sûr, ça arrive. Mais à qui la faute ? La personne qui se fait renverser, voilà la faute, à qui?
Bah pas toujours.
Bah presque toujours.
Mais qu'est-ce que ça change?
Ça change tout. Moi j'étais chauffeur de bus avant.
Et ça vous est arrivé de renverser quelqu'un?
Bien sûr que non.
Bah faut pas vous énerver comme ça, on parle, c'est tout.
Ah vous savez ce que c'est que de conduire un bus. Les jours après jours, les mêmes rues, les mêmes gens, les mêmes problèmes.
Doit y avoir de quoi déprimer.
Bah les gens déboulent sur la chaussée comme s'ils vivaient dans leur petit monde. Sans aucun égard pour personne. S'ils se font renverser par un bus, eh ben, tant pis pour eux. Hein. Voilà ce que j'en pense, moi.
Bah, y a trop de gens, hein. C'est ça le problème.
Trop de gens de la pire espèce, si vous voyez ce que je veux dire.
Bien sûr.
Laissez la porte ouverte, il entrera un chien.
Quoi?
C'est un vieux dicton. Un chien entrera sans qu'on l'y invite.
Ouais, et puis d'autres bêtes, de toutes sortes.
La seule chose à faire, c'est de fermer la porte.
Mais qui le fera?
Personne n'en a les couilles.
Bah c'est pas des couilles que ça demande, c'est du bon sens.
C'est devenu une denrée rare, hein, en ce bas monde. Le monde est en train de partir en vrille. Voilà, sincèrement, ce que j'en pense. Hein.
On trime toute sa putain de vie, et qu'est-ce qui se passe? On finit par devoir vivre à côté d'un putain de nègre.
Le terme raciste, c'est une insulte, on est d'accord?
Mais voyez ceux qui emploient ce terme.
Et je ne l'entends pas comme une insulte. J'y entends autre chose. Un raciste, c'est quelqu'un qui a deux yeux dans la tête et un cerveau dans le crâne. Un raciste, c'est quelqu'un qui voit le monde et le chemin qu'il prend et qui veut y faire quelque chose. Un raciste, c'est quelqu'un qui veut rétablir l'ordre, que les choses soient à leur juste place. Quelqu'un qui sait putain discerner le bien du mal. Le mal ne peut en aucun cas être le bien, de même que le noir ne peut en aucun cas être le blanc. Et voilà sincèrement ce que j'en pense, putain.
Vous n'êtes pas le seul.
Il y a des tas de gens hein, qui partagent votre opinion, sauf qu'ils ne...
Je n'ai pas peur d'affirmer ce que je pense. C'est là que je suis différent.
J'ai pas peur de le dire non plus, hein.
Bah moi non plus.
Majid apparaît. Il s'approche des trois hommes sur le banc. Il s'adresse au contrôleur.
Vous savez à quelle heure le bus doit passer?
Bon, il sera pas long. Hein.
Majid s'assied au bout du banc. Long silence, comme les lumières baissent jusqu'au noir. Un baiser, Après-midi, la chambre de Majid. Majid est assis à sa table. Il est en train d'écrire une lettre. Il fait une pause dans la rédaction de sa lettre et lit.
Mon très cher père, il me revient certains souvenirs. J'ai du mal à les mettre en ordre et je ne sais pas si ce dont je me souviens est la vérité, si les choses se sont vraiment passées ainsi. Mais ces souvenirs sont devenus la vérité pour moi. Ton visage bienveillant, ton visage sévère, ton visage détourné de moi par déception peut-être. Je me souviens de ces choses-là. Ma mère semble si loin à présent. Je la vois pourtant se tenir à tes côtés. On la dirait surgie de ton ombre, mais elle est bien réelle, comme le souvenir d'un rêve au sortir du sommeil, comme une caresse qui s'attarde sur notre peau. La caresse de quelqu'un qu'on aime. Je suis un peu perdu, papa. Je ne suis pas en train de demander ton aide. Tu ne peux pas m'aider. Je ne suis pas en train de demander ton aide, mais j'ai besoin de parler, d'être un fils qui parle à son père. Ma vie semble changer tous les jours. Plus elle change, plus je m'accroche à mes souvenirs. Mais même mes souvenirs semblent incertains. Mon vœu le plus cher, ce serait de pouvoir te toucher une fois encore. Il y a une femme dans ma vie maintenant. Elle est gentille. Elle a été seule comme moi, mais ça ne l'a pas brisée. La nuit, elle dort contre ma peau. Sa peau n'est pas de la même couleur. Quel souvenir as-tu de moi? Je crois que j'ai changé. Tout en restant celui que j'ai toujours été. C'est un mystère pour moi. Je me souviens qu'un jour, tu m'as dit de jamais tricher avec moi-même. Mais qui je suis, papa? Je suis sûr que le fils que tu imagines n'est pas le fils que tu as. Je t'embrasse. Entre là où tu es et là où je suis, dans ce lieu où ni l'un ni l'autre ne peuvent réellement être. Je t'embrasse.
Quand la neige tombe, nuit, l'appartement d'Anne. Anne se tient devant sa fenêtre, elle tient à la main son cahier, ouvert, elle lit.
C'est bientôt le soir. Je suis restée là, penchée sur ma page, mais sans rien à écrire. J'aime le poids du stylo dans ma main. Je suis restée là en pensant à la neige. Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu tomber la neige. J'ai pensé à combien le monde paraît silencieux quand la neige tombe. Il n'y a pas d'heure plus silencieuse. Je suis restée là si longtemps que maintenant il fait noir, aussi noir que ses yeux. Est-ce que je dois le dire? Je ne sais pas ce que je dois dire. Rien, peut-être. J'ai soudain eu peur tout à l'heure. J'étais en train de me souvenir du plaisir de ses yeux plongés dans les miens. Pourquoi ça m'a fait peur? Peut-être que ce n'était pas le regard dans ses yeux qui m'a fait peur. C'est tout ce qui n'était pas ce regard, tout avant et après lui, tout avant et après ce moment. J'imagine que c'est le monde entier. Il entrera et prendra sa veste à la poignée de la porte. Il se déshabillera et pliera ses vêtements. Sa caresse reste sur ma peau comme un secret que je porte en moi. Je suis jeune et je suis vieille. Je suis heureuse et triste. Je suis tout. Je suis sans doute complètement folle. Être heureux, être triste, que veut dire l'un, que veut dire l'autre? Quand la neige tombe, elle flotte dans l'air, elle semble n'avoir aucun poids, et pourtant elle tombe. La neige qui tombe me rappelle combien le monde en fait est silencieux. Aussi silencieux qu'une main qui en touche une autre. Je le verrai ce soir. Je dormirai à ses côtés. Je mettrai toute ma vie entre ses bras, qu'elle soit heureuse ou triste. Il la prendra tout entière entre ses bras. Il sera bientôt là.
Rendez-vous galant. Nuit, tard, sur le seuil du bistrot. Eva et le contremaître. Ils ont bu tous les deux. Eva ferme à double tour la porte du bistrot. Comme elle se retourne, le contremaître l'embrasse. Vous y pensez, à ces deux-là ?
Qui ?
Cette vieille peau et son bougnoul.
Ben pourquoi j'y penserais ?
Ça ne vous dérange pas ?
Ça ne m'intéresse pas.
Mais vous n'y pensez jamais ?
Et vous ?
Ah, c'est plus fort que moi.
Ben pourquoi ? Ça vous pose un problème ?
C'est quelque chose de pourri. Comme si j'en sentais l'odeur. Ça me dérange.
Prenez sur vous, hein.
Mais vous les imaginez en train de le faire ? Sa sueur, sa crasse sur sa peau fripée, lui soufflant comme un chien.
Je n'ai aucune envie de l'imaginer.
Mais c'est plus fort que moi.
Peut-être que ça vous excite.
Ne soyez pas idiote.
Ça vous excite ?
Non.
Vous êtes sûre ?
Certain.
Parce que moi, je pense que si. Je pense que ça vous fait bander. Vous aimez penser à ce bougnoul et à sa vieille truie. Vous aimez les imaginer en train de baiser parce que c'est mal et que c'est obscène.
Ça me dégoûte.
Ça vous fait bander.
Elle pose la main sur son entrejambe.
Ce serait plutôt vous. Vous baiseriez avec un nègre ?
Non.
Mais vous êtes sûre ?
Ça vous plaît de penser que je le ferais ?
Salope.
Il l'embrasse.
Savoir. Matin. L'appartement d'Anne. Anne et Majid au lit.
Il y en a qui t'ont dit quelque chose ?
Ils n'ont pas à le faire. Ils nous regardent.
Laisse-les regarder.
Je ne veux pas qu'ils regardent.
Comment les en empêcher ?
Mais on devrait rester cachés quelque part.
Pourquoi ? Tu as honte ?
Non. Mes sentiments m'appartiennent. Mes sentiments pour toi. Pour moi. Mais il n'y a nulle part où se cacher.
Pourquoi tu devrais te cacher ?
Je ne sais pas, je ne sais pas. J'aime pas qu'on me regarde. Sauf toi. Quand tu me regardes, je me sens à l'abri. Ce dont j'ai peur... Tu n'as peut-être pas peur des mêmes choses. Tu es peut-être habituée.
Ça veut dire quoi ?
J'ai toujours été à ma place ici. Enfin, j'ai été à ma place au milieu de mes voisins. Je n'ai rien à expliquer.
Moi, j'ai quelque chose à expliquer.
Mais toi, t'es obligée de dire aux gens qui tu es.
Pourquoi je le dirais ?
Pour que les gens puissent te connaître, pour que tu puisses être à ta place.
Je ne suis pas à ma place. Pourquoi je devrais être à ma place ? Et toi, pourquoi ?
C'est chez moi, ici. Il n'y a pas d'autre endroit pour moi.
Pour moi non plus.
Mais toi, tu as choisi de venir ici. Moi, je n'ai pas choisi. C'est comme si, de toute ma vie, je n'avais jamais rien choisi. Tout m'est arrivé comme ça, tout seul. Peut-être que tout est arrivé comme il était dit que ça arriverait. Je ne sais pas. Je sais même pas ce que ça veut dire. Et parfois, je l'admets, hein, j'étais heureuse qu'il en soit ainsi. J'étais heureuse de rien décider, j'étais heureuse d'être ce que j'étais censée être, ce qu'on me disait d'être, mes parents, mes amis, mon mari, même ma fille. J'étais heureuse d'être ce qu'ils voulaient que je sois. Je ne pense pas avoir jamais rien choisi par moi-même. Être avec toi, c'est comme si c'était le seul choix que j'ai jamais fait.
Tu le regrettes ?
Non, non, Majid, je ne le regrette pas. Je ne le regretterai jamais, quoi qu'il arrive.
Qu'est-ce qui arrivera ?
Je ne sais pas. Mais même si ça me fait peur, je crois que j'aime autant ne pas savoir.
Dès l'instant où j'ai posé le pied dans ce pays, je n'ai pas su ce qui arriverait. Je ne sais toujours pas. J'ai quelques amis, ils sont tous comme moi. Nous partageons nos problèmes. Ça aide un peu. J'aimerais que tu les rencontres. Toi, tu aimerais ?
Peut-être.
Ça veut dire oui ?
Tu leur as parlé de moi ?
Ouais, je l'ai dit à un ou deux d'entre eux, qu'ils vont le répéter aux autres.
Oh, on devrait se lever.
Quoi ?
Il se fait tard.
Je vais te lire quelque chose.
Qu'est-ce que tu vas me lire ?
Tu n'as qu'à écouter.
Le reste du monde. Nuit, la rue.
Ça va ?
Anne ne répond pas.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Cette façon qu'ils avaient de me regarder.
Comment ils t'ont regardé ? Ils voulaient te rencontrer.
Je sais.
Tu leur as plu ?
Ce sont tes amis, les gens disent ce qu'ils croient bon de dire.
Tout le monde n'est pas comme ça.
Mais est-ce qu'ils auraient dit elle est blanche et elle est vieille?
Anne.
On se conduit comme des imbéciles.
Des imbécilités, j'en ai commis dans ma vie, mais je suis pas un imbécile et toi non plus. Un imbécile, c'est quelqu'un qui se laisse facilement influencer. Regarde-nous. Qui nous a menés là où nous sommes? Écoute-moi. Ce qu'il y a entre toi et moi, c'est entre toi et moi. Ça n'a rien à voir avec personne d'autre.
Mais t'es peut-être assez fort pour marcher dans le monde avec moi pendu à ton bras. Moi, je ne suis pas sûre de l'être.
Quand les gens regardent cette peau, ils voient quelque chose de sale, de minable, de barbare, dont il faut se méfier et surtout pas toucher.
Ce n'est pas ce que je vois.
C'est ça qui te fait peur? De pas être comme la plupart des gens? C'est ça, c'est donc ça. Être avec moi, ça fait que tu te sens seule.
Bah, plus seule que je ne l'étais, et moins seule.
Anne, où que j'aille, je porte ma peau sur mon dos. Et ce qui m'arrive, m'arrive à moi, pas à toi. Il y a des choses que je ne te dis pas, tu sais. Tu veux savoir les endroits où je peux pas aller? Tu veux savoir les cafés qui refusent de me servir? Le bureau de poste où on m'ignore? Les boulots qu'il a fallu que je quitte? Parce que j'acceptais pas les regards qu'on me lançait? Les insultes tous les jours? La violence qui me faisait peur? Ces choses-là, elles arrivent, Anne. Peut-être que je devrais t'en parler, en fait. Peut-être que je devrais, parce que si je t'en parle pas, toi... Tous les autres, vous pensez qu'elles n'arrivent pas, en fait, ces choses-là. Mais quand je suis avec toi, tu es le reste du monde et je me sens accueilli. C'est idiot de penser ça?
Non, ça ne l'est pas.
Et quand je ne suis pas avec toi, je me fiche du regard des inconnus là-bas dans la rue. Le reste du monde, c'est pas le reste du monde pour moi, c'est un ailleurs qui n'a rien à voir avec moi.
Mais si, pourtant. Tu ne peux pas faire de moi tout un monde. Je ne peux pas être ça. Je ne suis que moi-même.
Un monde, Anne, peut se résumer à deux êtres.
Deux êtres très seuls.
Et c'est pas ce que nous sommes? Non?
Vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique. Vous venez d'entendre la lecture d'une pièce de Daniel Keane, Dreamers, en tout cas des extraits. Je cède la parole à Camille qui a organisé et orchestré cette émission.
Donc, merci au lecteur. Juste pour résumer cette phrase, un monde peut se résumer à deux êtres. J'espère que ça amène un petit peu de rêverie comme c'est Dreamers dans le contexte qui est le nôtre en ce moment. Donc je vais laisser la parole à Miguel qui va nous faire une petite revue théâtrale dans le cadre du couvre-feu et particulièrement de La vie de Galilée.
Et bonjour à tous. Eh bien, voilà, après quoi 4 ans d'absence, me voilà revenu à Lyon. Et par conséquent, c'est reparti pour les chroniques théâtrales en 3 minutes. Alors, comme c'était concis cette intro, une telle concision, c'est tellement beau, ça met la larme à l'œil. Et cette semaine, je suis allé au Théâtre des Célestins voir la pièce « La vie de Galilée » de Bertolt Brecht, dans une mise en scène de Claudia Stavisky. Alors, on va tout de suite s'occuper de l'éléphant dans la pièce. Oui, c'est une mise en scène de directrice de théâtre. Et oui, du coup, cette mise en scène a ce côté classique, avec quelques fulgurances qu'on voit dans les grandes mises en scène actuelles. Et je ne parle pas de Pomera, bien sûr. Donc, du coup, aussi, la distanciation pour un Brecht, en fait, elle est très, très fine, voire il n'y en a pas. Mais ça a le mérite d'être très lisible. C'est beau comme un camion. Et surtout, Philippe Torton, qui joue Galilée, est un monstre. Ça fait un peu galérer les autres tours, mais on ne peut pas tester. Et surtout, surtout... ce texte. Alors, je ne l'avais pas lu. C'était donc pour moi l'occasion d'une première rencontre. Et bien, ce texte, il claque des culs de boulistes cisgenres en string léopard par paquet de 50. Il est ultra complet et adresse tous ses thèmes avec brio. Il trouve même le moyen de parler de la gestion catastrophique d'une épidémie par un pouvoir accroché à lui-même et tenu par un enfant. Au KLM, comme ça, entre deux scènes. Et surtout, un aspect que je ne connaissais pas de ce texte, Brecht insiste beaucoup sur le fait que Galilée comptait sur la rencontre entre le bon sens des travailleurs et la science pour qu'il y ait un progrès social et que la science participe à un progrès social avant tout, et non qu'elle soit un instrument de pouvoir et d'argent. Ce thème-là est beaucoup plus important que le rapport entre la science et l'obscurantisme dans la pièce. C'est limpide, encore une fois, excellemment bien écrit. Et voici donc La vie de Galilée en 3 minutes. Hey Galilée, ça part ?
Ah ouais, ouais, ouais. Et dites-moi, c'est normal la ville qui brûle là derrière ?
Ah ! Oui, ouais. Oui, c'est les pauvres, dès qu'il y a la peste, ils paniquent. Ah. En sauvagement, tout ça, mais bon. Entre civilisés, nous, on reste tranquille. À notre poste, tout ça.
Oui, entre vos murs, tout
ah,
ça.
Vous dites ?
Oh rien, rien, j'ai rien dit. Moi, j'ai dit quelque chose.
Je croyais que...
Non, je vous assure que non. Excusez-moi, mais moi je suis un homme de science, donc je ne tire aucune conclusion hâtive. Mais juste comme ça, qu'est-ce que c'est que ces carrioles dans la cour ?
Oh, logistique.
Logistique, d'accord, je veux pas être désobligeant, c'est la curiosité scientifique, mais pourquoi avoir attendu le dernier moment pour avertir toute la population ?
Bah, c'est pour éviter la panique. Vous trouvez pas qu'il y a une menace sur la chrétienté en ce moment ?
Oui, oui.
Avec tous ces protestants, un côté séparatisme. Vous pensez pas qu'on devrait faire quelque chose par rapport à ça, oui. Plutôt, non ?
Oui.
Vous faites pas des découvertes et des théories, vous ?
Oui, mais je sais pas si vous êtes prêts.
Ah, pourquoi ? C'est compliqué ?
Oh oui, terriblement. Et puis, c'est pas clair. C'est très technique.
Ah. Et vous avez quelque chose pour le...
Pour la peste,
ouais.
La peste. Mm-hmm. Oui, j'ai un truc. Vous prenez un piment, vous le coupez en deux,
okay.
Dans le sens de la longueur,
mm-hmm.
Et vous le rentrez dans le cul.
Oui, je note.
Ça soigne tout. Alors par contre, pour les personnes importantes, c'est au moins 10 fois par jour.
Ah, ok.
Tous les ducs, évêques, 10 fois, d'accord ?
Ok, bah très bien. Écoutez, monsieur Galiléo Galilei, eh bien, merci beaucoup.
Je vous en prie. Et bon voyage.
Et voilà, c'était donc La vie de Galilée en 3 minutes, et ça joue donc en ce moment au Théâtre des Célestins. C'est ce soir à 20h, demain samedi à 17h et dimanche à 16h. Moi je la recommande plutôt, ne serait-ce que pour le texte et pour le jeu de l'acteur principal. Voilà. Au vu des circonstances, il semble approprié de préciser ceci. Les théâtres fonctionnent encore. Oui. Les horaires sont adaptés. Alors, je sais, ce sera difficile de se caler une dent culturelle après le conf-call de 20h, mais ça joue et il y a du public. Donc on va faire un petit tour d'horizon rapide. Les Célestins ont adapté leurs horaires. Après Galilée, il y a une pièce qui s'appelle Dimanche, qui a l'air plutôt jolie, théâtre d'objets, qui joue à 19h, voire plutôt selon les jours. Le TNP a adapté ses horaires et vont assurer leur saison. Le Théâtre de la Renaissance propose Plume, une pièce de danse et musique demain à 11h et 16h et maintient sa programmation aussi. Le Théâtre de l'Élysée, il y aura la semaine prochaine Je ne suis pas un astronaute, ils ont adapté leurs horaires, donc c'est à 19h et 11h le jeudi. D'ailleurs, moi je vais essayer d'aller la voir. Je n'ai pas encore de confirmation de la part du Théâtre de la Croix-Rousse, mais je suppose qu'ils vont faire exactement pareil, donc décaler plutôt. Le Théâtre des Marronniers a adapté ses horaires, ça c'est confirmé. Au Carré 30, il y a le Manteau d'Akaki ce week-end, 14h30 et 19h, et ils ont adapté leurs horaires. Théâtre de l'Uchronie, Vol au-dessus de l'océan, ce soir à 20h30 et demain à 17h, et ils vont aussi s'adapter. Le NTH 8 a déjà adapté ses horaires, c'est entre 16h et 17h selon les jours. En conclusion, la saison continue, elle continue partout, il y a une distanciation, donc il y a certes moins de place. Il est plutôt conseillé de réserver et renseignez-vous pour ces changements d'horaire, voilà, faites bien attention à ces choses-là. Il se trouve qu'il y a aussi même des places libres les soirs même, donc voilà, c'est possible, vous pouvez aller voir du théâtre en ce moment. Ça ne change rien, enfin juste un peu plus tôt, voilà. Bien prendre les renseignements et sortez, voilà. C'est pas après 21h que la vie commence.
Merci Miguel et bon retour à toi parmi nous au Théâtre de la Gamelle. Nous sommes très heureux de te réaccueillir. Et je dirais que même l'avantage d'aller au théâtre tôt, c'est que l'estomac est un petit peu moins en train de faire des parce qu'on a faim.
Ouais, c'est vrai en plus, c'est vrai.
Voilà. Merci à vous tous. Donc je remercie Camille Davin d'avoir préparé l'émission.
Merci à vous.
Merci à Gaspard
Blanchard.
Voilà, j'ai perdu mes notes, je les ai rangées, d'avoir participé. Pauline Thiraud également. Merci à toi Miguel. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre lecture, un autre moment de théâtre. D'ici là, portez-vous bien, hein, essayez. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller au cinéma et au théâtre. Et à la semaine prochaine.
Merci Amandine.
Merci Amandine.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires, snobles.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.